si la honte ne rend pas à cette Revolution Society, l'espèce de serment annuel que l'on y débite pour célébrer l'époque de notre révolution, serment auquel se rapporte la plus grande partie de ce que j'écris, parviendra peut-être, à force de subtilité, à effacer de l'esprit des hommes qui la composent les véritables principes de notre révolution et à les priver même des avantages qu'elle nous a procurés. Je vous avoue, monsieur, que je n'ai jamais aimé ces entretiens perpétuels sur la résistance et sur les révolutions, ni cette manière de faire son pain quotidien de ces remèdes extrêmes de la Constitution. Cela rend la complexion de la société dangereusement valétudinaire. C'est comme si l'on prenait périodiquement des doses de sublimés corrosifs et comme si l'on avalait de fréquents breuvages de cantharides pour se provoquer à l'amour de la liberté. Cette maladie de remède, par l'usage vulgaire et habituel que l'on en fait, finit par relâcher et par détruire les ressorts de cet esprit qui ne doit agir que dans les grandes occasions. C'était à l'époque la plus soumise de la servitude de Rome que l'on donnait aux enfants dans les écoles, pour leurs exercices journaliers, des thèmes sur le droit de tuer les tyrans. Cum perimit sevos classis numerosa tyrannos, tandis que la classe nombreuse extermine les tyrans. Juvénal. Dans un état ordinaire de choses, et dans une contrée comme la nôtre, cela produit les plus mauvais effets, même pour la cause de la liberté, que cela trahit, par le dérèglement et par l'extravagance des spéculations. Presque tous les républicains les plus outrés que j'ai connus sont devenus, en fort peu de temps, les courtisans les plus décidés et les plus accomplis. Ils laissèrent bientôt cette besogne ennuyeuse d'une résistance modérée, mais journalière, à ceux d'entre nous que, dans l'ivresse et dans l'orgueil de leur théorie, ils avaient traité avec autant de mépris que si nous eussions été des tories. Il faut dire aussi que l'hypocrisie se plaît dans les spéculations sublimes, car n'ayant jamais le projet d'aller plus loin que la spéculation, il n'en coûte rien de les faire magnifiques. Mais même dans le cas où il fallait encore plus se défier de la légèreté que de la ruse de leur spéculation, leur résultat a été le même. Car quand ces professeurs ne trouvent pas leurs principes extrêmes applicables au cas qui exige une résistance appropriée, je peux même dire civile et légale, ils n'en font pas du tout. Avec eux, il faut la guerre, une révolution ou rien. Leur système politique n'étant point adapté à la forme du monde dans lequel ils vivent, il arrive souvent qu'ils ont une idée trop légère de tous les principes publics et qu'ils sont prêts à sacrifier pour un intérêt très trivial ce qu'ils trouvent n'avoir qu'une valeur triviale. Quelques-uns, à la vérité, sont d'un caractère plus ferme et plus persévérant. Mais hors du Parlement, les politiques les plus ardents sont ceux que la moindre chose déciderait à abandonner leur projet favori. Ils ont toujours en vue quelque changement dans l'Église, ou dans l'État, ou dans les deux. Ceux qui pensent ainsi sont toujours de mauvais citoyens, et l'on ne peut former avec eux aucune sorte de liaison sur lesquelles l'on puisse compter. Car n'attachant de valeur qu'à leur projet spéculatif et n'en accordant aucune à l'arrangement actuel de l'État, ce qu'ils font de mieux est de n'apporter que de l'indifférence dans la bonne conduite des affaires publiques. Ils ne savent ni apprécier le mérite ni blâmer les fautes. Ils seraient cependant portés de préférence pour les dernières comme favorisant une révolution. Ils ne jugent en bien ou en mal ni les hommes ni les actions, ni aucun principe politique, qu'autant qu'ils y trouvent quelque rapport avec l'avancement ou le retard de leur projet de changement. C'est par cette raison qu'on les voit s'attacher un jour à la prérogative la plus violente et la plus étendue, changer dans un autre temps pour les idées les plus sauvages et les plus démocrates sur la liberté, passer enfin de l'une à l'autre sans aucune espèce de considération, ni pour la cause, ni pour les personnes, ni pour aucun parti. En France, vous êtes maintenant dans la crise d'une révolution et du changement d'un gouvernement dans un autre. Vous ne pouvez pas discerner ce caractère d'homme exactement dans la même position où nous le voyons dans ce pays. Chez nous, il est guerroyant, chez vous, il est triomphant. Et vous savez maintenant comme il est capable d'agir quand on lui laisse prendre un pouvoir proportionné à ses volontés. Je serais très fâché que l'on supposât que j'adresse ces observations particulièrement à une certaine espèce d'homme ou que je les confondisse toutes ensemble. Bien loin de là, je suis aussi incapable de cette injustice que je le suis de vouloir me mesurer avec des hommes qui professent des principes extrêmes et qui, sous le voile de la religion, enseignent une politique dangereuse et sauvage. Ce qui révolte dans cette politique révolutionnaire, c'est qu'on dirait que son principal effet est de tremper et d'endurcir les poitrines afin de les rendre en état de mieux supporter les coups terribles que l'emporte quelquefois dans ces occasions extrêmes. Mais comme ces occasions peuvent n'arriver jamais, l'esprit en reçoit une aliénation gratuite, les sentiments moraux souffrent pour le moins autant sans que leur dépravation tourne au profit d'aucune vue politique. Cette sorte de gens est tellement entichée de la théorie sur les droits de l'homme qu'elle en a tout à fait oublié la nature. Loin d'ouvrir une nouvelle route à l'esprit humain, ils ont fermé toutes celles qui conduisaient au cœur. Ils ont corrompu dans leurs propres âmes et dans celles de ceux qui les suivent tous les liens attrayants et consolateurs d'une sympathie universelle. Voilà cependant le fruit des inspirations de ce fameux sermon du Old Jewry. Quel esprit respire dans un parti politique ? Les complots, les massacres, les assassinats semblent être des bagatelles au prix d'une révolution. Rien ne paraît plat et insipide à leur goût comme une réforme qui n'est acquise ni par les déprédations ni par l'effusion du sang. Rien d'insipide comme une liberté sans crime. Il leur faut de grands changements de scène, des coups de théâtre. Il leur faut un grand spectacle pour réveiller leur imagination que la jouissance indolente de 60 années de paix a trop engourdie et pour donner du mouvement à ce calme inanimé de la prospérité publique. Le prédicateur a trouvé cela dans la Révolution de la France. Elle a inspiré le juvenilis ardeur à tout son sujet. On voit que son enthousiasme s'allume à mesure qu'il s'avance et lorsqu'il arrive à la péroraison, c'est un véritable brasier enflammé. C'est alors que, découvrant du haut de la chair l'état libre, moral, heureux, florissant et glorieux de la France, comme dans le point de vue d'un paysage de la terre promise, son style s'élance avec extase. Vous allez en juger vous-même. Quelle période féconde en événements ! Que je suis reconnaissant d'avoir vécu dans une telle époque. Je pourrais presque dire « Nunc dimittis servum tuum, domine, secundum verbum tuum in pace, quia viderunt oculi mei salutare tuum. » J'ai vécu pour voir une expansion de connaissances qui a miné la superstition et l'erreur. J'ai vécu pour voir les droits de l'homme mieux connus qu'ils ne l'avaient jamais été et les nations haletant pour la liberté dont ils semblaient avoir perdu l'idée. J'ai vécu pour voir 30 millions d'hommes tous indignés et comme des déterminés, foulant aux pieds l'esclavage et demandant la liberté avec une voix irrésistible. J'ai vu leur roi conduit en triomphe et un monarque arbitraire se livrant lui-même à ses sujets. Fin de citation. Avant d'aller plus loin, j'ai à remarquer que le docteur Price semble préférer à toutes les autres, pour l'acquisition des Lumières, l'époque à laquelle il en a tant recueilli, tant répandu. Il me semble que le dernier siècle était au moins aussi éclairé. Il a eu, quoique dans un lieu différent, un triomphe aussi mémorable que celui que vante le docteur Price, et quelques-uns des grands prédicateurs de l'époque y ont pris part avec autant d'ardeur qu'il en prend lui-même à celui de la France. Dans le procès pour haute trahison que l'on a intenté au révérend Hugh Peters, quelqu'un a dit dans sa déposition que le roi Charles fut amené à Londres pour subir son procès, que l'apôtre de la liberté conduisait ce jour-là le triomphe. « J'ai vu, dit le témoin, Sa Majesté dans une voiture à 6 chevaux et Peters, triomphant, allant à cheval devant le roi. » Lorsque le docteur Price a l'air de se livrer à l'impulsion de son génie, il ne fait que suivre un exemple, car après le commencement du procès du roi, son précurseur, ce même docteur Peters, finissant une longue prière à la chapelle royale à Whitehall, il avait bien véritablement choisi sa place en triomphateur, dit « J'ai prié et prêché depuis 20 ans, et maintenant je puis m'écrier avec le vieux Siméon « Nunc dimittis servum tuum », etc., etc. Peters ne recueillit pas le fruit de sa prière, car il n'a quitté la vie ni aussitôt qu'il le souhaitait, ni tout à fait aussi en paix. Ce que j'espère de tout mon cœur qu'aucun de ses imitateurs ne deviendra, il devint lui-même un holocauste du triomphe qu'il avait conduit comme souverain pontife. On agit peut-être trop durement à l'égard de ce pauvre cher homme à l'époque de la Restauration, mais nous devons à sa mémoire et à ses souffrances de dire qu'il a été aussi illuminé, qu'il a eu autant de zèle, et qu'il a aussi efficacement miné toutes les superstitions et les erreurs qui pouvaient retarder la grande besogne dans laquelle il s'était engagé, que telle personne qui le suit et qui l'imite dans ce siècle, et qui voudrait s'approprier à lui seul un titre exclusif à la connaissance des droits de l'homme et à toutes les conséquences glorieuses qui en dérivent. Je reviens à la saillie de notre prédicateur du Old Jewry, qui diffère seulement de lieu et de temps, mais qui est très conforme à l'esprit et à la lettre du Nunc Dimittis de 1648. C'est après cette saillie que la Revolution Society, ces faiseurs de gouvernement, cette bande héroïque de casseurs de monarques, ces électeurs de souverains, ces conducteurs de rois en triomphe, se pavanant et tout enorgueillis du sentiment intime d'une si grande expansion de lumière, au partage desquels chaque membre avait été traité avec largesse. C'est alors, dis-je, que toute cette société était dans une grande impatience de faire elle-même une expansion généreuse de toutes les lumières qu'elle venait de recevoir si gratuitement. C'est pour consommer cette communication bienveillante que l'on s'ajourna de la chapelle du Old Jewry à la taverne de Londres, où le même docteur Price, encore environné des fumées de son trépied delphique, qui n'était pas entièrement évaporé, proposa et porta la motion ou l'adresse de congratulation qui a été transmise à l'Assemblée nationale de France par Lord Stanhope. Quoi ? C'est un prédicateur du Saint-Évangile qui profane cette sublime et prophétique extase, appelée communément le Nunc Dimittis, qui fut faite lors de la première présentation de notre Sauveur au Temple, et qu'il applique avec un enthousiasme dénaturé et inhumain au spectacle le plus horrible, le plus atroce et le plus affligeant qui ait jamais peut-être été offert à la pitié et à l'indignation du genre humain. Cette marche de triomphe, cet événement pour le moins infâme et impie, qui remplit cependant l'âme de notre prédicateur de transports si profanes, doit au contraire plus révolter tous les esprits bien-nés. Plusieurs Anglais ont été stupéfaits et indignés de ce spectacle. Il devait, ou je suis bien trompé, ressembler à une procession de sauvages américains entrant en Onondaga après quelques-uns des massacres qu'ils appellent leur victoire, et conduisant dans leur cabane, entourés de crânes suspendus, leurs captifs, à l'infortune desquels les railleries et les insultes de femmes aussi féroces qu'eux-mêmes, ajoutaient encore, plutôt qu'à la pompe triomphale d'une nation guerrière et civilisée. Si toutefois une nation civilisée, ou aucun homme ayant quelque idée de générosité, peut être capable de faire un triomphe personnel de l'accablement et de la douleur. Ce n'était pas là, mon cher monsieur, un triomphe pour la France. J'ai besoin de croire que, comme nation, vous en avez été accablé de honte et d'horreur. J'ai besoin de croire que votre Assemblée nationale s'est trouvée dans le plus grand degré d'humiliation en voyant qu'elle n'était pas capable de punir les auteurs ou les acteurs de ce triomphe, ni même parmi toutes les recherches du comité de l'Inquisition, de rien découvrir qui la concernât. La justification de l'Assemblée est dans sa situation. Cependant, lorsque nous approuvons ce que les autres sont forcés de supporter, cela devient en quelque façon en nous comme le choix dégénéré d'un esprit vicieux. Avec les fausses apparences du pouvoir de délibérer, votre Assemblée vote sous la domination d'une nécessité sévère. Elle siège dans le sein d'une république que l'on peut dire étrangère. Elle a sa résidence dans une ville dont la constitution n'est émanée ni d'aucune charte du roi, ni d'aucun pouvoir législatif. Elle est environnée d'une armée qui n'a été levée ni par l'autorité du roi, ni par aucun ordre, et qui, si elle voulait la discorde, ne manquerait pas de la dissoudre elle-même. Elle siège encore, après qu'une bande d'assassins a forcé de sortir de son sein tous les hommes qui y apportaient un esprit et des vues modérées, en laissant ceux qui restent, comme une lie et un rebut, pour être sous la conduite apparente de ceux dans lesquels ils n'ont pas tant de confiance qu'ils paraissent en avoir. Leur séance est une dérision de la législation, car ils emploient dans leurs décrets les mêmes mots dont se servaient ceux qu'ils méprisent et qu'ils détestent. Captifs eux-mêmes, ils reçoivent de leurs cafés les plus licencieux et les plus tumultueux des absurdités qu'ils forcent ensuite un monarque captif à publier comme des édits royaux lorsqu'il ne le reçoit ainsi souillé que de la troisième main. Il est notoire que toutes leurs mesures sont arrêtées avant qu'elles soient débattues. Il est indubitable que sous la terreur de la baïonnette et de la lanterne et de la torche qui menace leur maison, ils sont obligés d'adopter toutes les mesures furieuses et indigestes suggérées par des clubs où l'on trouve un mélange monstrueux de tous les états, de toutes les langues et de toutes les nations. C'est parmi les êtres qui les composent que l'on trouve des gens auprès desquels Catilina aurait passé pour scrupuleux et Sédécus pour un homme sobre et modéré. Et ce n'est pas seulement dans ces clubs que les mesures publiques reçoivent ces tournures monstrueuses. Elles subissent un premier degré de diffamation dans les académies qui sont destinées comme autant de séminaires pour ces clubs que l'on a soin d'établir dans tous les endroits où il y a une certaine assistance. C'est dans les rendez-vous de toute espèce que tout ce qui est téméraire, violent et perfide est marqué au coin du génie. Que l'humanité et la compassion sont ridiculisées comme les fruits de la superstition et de l'ignorance, et que la sensibilité que les indivisions font naître est regardée comme une trahison à l'égard du public entier. C'est là que la liberté devient plus parfaite à mesure que les prospérités deviennent plus incertaines. Qu'au milieu des massacres, des assassinats, des confiscations, exécutées ou méditées, on forme des plans pour le bon ordre de la société future. Et tandis que sous les fausses couleurs de la loi, les gens qu'on a fait juges sont des meilleurs assassins que les bravos eux-mêmes, on esquisse des tribunaux pour la race des citoyens à venir. On embrasse avec respect les cadavres des plus vils criminels, et en faisant de leurs offenses un titre pour la promotion de leurs parents, on excite 100 personnes vertueuses au même désordre en les réduisant à ne pouvoir vivre que de pillage et de crime. L'Assemblée, organe de ces clubs, représente devant eux la force de ces délibérations avec aussi peu de décence que de liberté. On croirait voir une troupe de comédiens de foire jouant devant un assemblage de ribauds. C'est au milieu des cris tumultueux d'une canaille mélangée d'hommes féroces et de femmes perdues pour toute espèce de honte qui, selon le caprice de leur imagination insolente, dirigent, contrôlent, applaudissent ou rejettent même les membres de cette assemblée. On les a vus quelquefois s'asseoir parmi les membres même de l'assemblée et exercer leur empire avec le mélange singulier d'une pétulance servile et de l'orgueil d'une autorité présomptueuse. Comme l'assemblée a renversé toute espèce d'ordre en toute chose, la galerie occupe la place de la chambre. Cette assemblée qui détrône les rois et bouleverse les empires n'a pas même la physionomie ni l'aspect imposant d'un corps législatif. Nec color imperii, nec frons erat ulla senatus. Le pouvoir dont elle jouissait est semblable au principe du mal. C'est le pouvoir de tout renverser et de tout détruire. Mais elle n'en a aucun pour reconstruire, si l'on en accepte cependant certaines machines inventées pour prolonger et pour étendre son œuvre de destruction. Quiconque est attaché dans le fond de son cœur aux assemblées qui représentent de grandes nations et est habitué à les admirer, doit fuir avec horreur et avec dégoût la parodie abominable, burlesque, perverse et profane d'une institution aussi sacrée. Elle fait horreur également aux partisans de la monarchie et aux républicains. Les membres eux-mêmes de votre assemblée doivent gémir sous une tyrannie dont ils ont toute la honte, tyrannie qui ne leur laisse aucun pouvoir et qui leur procure peu de profit. Je suis persuadé qu'un grand nombre de ceux qui composent même la majorité dans ce corps doivent éprouver les mêmes sentiments que moi, malgré les applaudissements de la Revolution Society. Roi misérable, misérable assemblée, comment cette assemblée a-t-elle pu supporter en silence le scandale d'entendre quelques-uns de ses membres qualifiait une journée qui semblait chasser le soleil de l'empire des cieux un beau jour. Comment a-t-elle pu renfermer son indignation lorsqu'elle a entendu d'autres qui ont trouvé convenable à la circonstance de dire que le vaisseau de l'État volerait d'une course plus rapide que jamais vers la régénération? On aurait dû ajouter, avec le secours du vent frais et soutenu de la trahison et du membre qui précédait le triomphe célébré par notre prédicateur. Que n'a-t-elle pas dû souffrir, cette assemblée, lorsqu'elle a entendu avec une patience immobile et une indignation si contrainte ces autres expressions dites à l'occasion d'autres mœurs aussi féroces? Ce sang qui a coulé était-il donc bien pur? Combien ne devait-elle pas souffrir lorsqu'assiégée par les plaintes de tous les désordres qui ébranlent son propre pays jusque dans ses fondements, elle fut forcée de répondre froidement aux malheureux qui venaient se plaindre qu'ils étaient sous la protection de la loi et qu'ils eussent à s'adresser au roi, à ce roi captif, pour qu'il mît en vigueur les lois qui doivent les protéger. Tandis que les ministres enchaînés de ce roi prisonnier avaient précédemment notifié à cette assemblée qu'il ne restait plus ni loi, ni autorité, ni pouvoir pour protéger personne. Que n'a-t-elle pas dû éprouver lorsqu'elle a été obligée, pour un compliment de nouvelle année, de supplier son roi prisonnier d'oublier l'époque orageuse de l'année précédente en faveur du grand bien qu'il devait procurer à son peuple? Et pour contribuer à compléter ce grand bien, elle fit, suivant l'usage, des protestations de pure forme sur sa fidélité, en assurant le roi de son obéissance au moment où il ne lui restait plus aucune autorité pour commander. Ce compliment a été fait avec âme et affection, je n'en doute pas. Mais parmi tous ceux qui ont subi quelques révolutions en France, il faut avouer qu'ils s'en fait un grand nombre dans leurs idées de bienséance. On nous dit en Angleterre que nous ne tenons nos bonnes manières que de la seconde main, que c'est vous autres qui nous les enseignez, et que nos formes ne sont drapées que par la friperie de France. Si cela est ainsi, nous avons encore la vieille coupe, et nous n'avons pas encore été assez loin dans nos imitations de mode parisienne et de belles manières pour croire qu'il soit dans le genre d'un compliment fin et délicat, ou même d'un compliment de condoléance, de dire à la créature la plus humiliée qui rampe sur la terre que des grands bienfaits publiés dérivent du massacre de ses fidèles serviteurs, de l'attentat fait à ses jours et à ceux de son auguste épouse, et enfin des mortifications, des disgrâces et des dégradations qu'on lui a fait personnellement éprouver. Ce topic de consolation est dans un genre tel que le ministre de Newgate serait trop humain pour en faire usage vis-à-vis des criminels au pied de la potence. J'avais pensé que le bourreau de Paris même, qui est maintenant réhabilité par le décret de l'Assemblée et qui reprend son rang et ses armes dans le collège héraldique des droits de l'homme, serait trop généreux, trop galant homme et trop rempli du sentiment de sa nouvelle dignité pour avoir recours à cette consolation déchirante vis-à-vis d'aucune des personnes que le crime de lèse-nation pourrait amener sous l'administration de son pouvoir exécutif. La chute est bien grande en vérité quand c'est dans ce genre qu'on adresse des flatteries à un homme. Des gouttes anodines d'oubli ainsi composées sont parfaitement combinées pour maintenir une insomnie cuisante, pour nourrir le vivant ulcère d'un souvenir corrosif. Administrer ainsi des potions d'amnistie, saupoudrées avec tous les ingrédients du dédain et du mépris, s'était présenté à ses lèvres, au lieu du baume des esprits affligés, la coupe amère des misères humaines, remplie jusqu'au bord, et le forcer à la boire jusqu'à la lie. Le roi de France, déterminé par des motifs aussi puissants que ceux qui ont été si délicatement exprimés dans le compliment de la nouvelle année, fera probablement des efforts pour oublier tous ces événements et le compliment lui-même. Mais l'histoire qui tient un compte ineffaçable de toutes nos actions et qui exerce sa censure menaçante sur les démarches de tous les souverains, quels qu'ils soient, n'oubliera jamais ni ces événements ni l'époque de ses raffinements généreux dans le commerce des hommes. Il sera gravé dans l'histoire que dans la matinée du 6 octobre 1789, le roi et la reine de France, après un jour de confusion, d'alarme, d'épouvante et de meurtre, sous la garantie d'une sécurité qui leur avait été promise, s'étaient retirés dans leurs appartements pour accorder à la nature quelques heures de repos et à leur profonde douleur un répit de quelques instants. Que la voix de la sentinelle qui était à la porte de la reine interrompit en sursaut son sommeil, qu'il lui cria de se sauver, que c'était la dernière preuve de fidélité qu'il pût lui donner, qu'on arrivait à lui, qu'il allait périr et qu'à l'instant il fut massacré, qu'une bande de scélérats et d'assassins, tout couverts de son sang, se précipitèrent dans la chambre de la reine, et que ne trouvant plus cet illustre infortuné qui venait d'échapper à leur coup en fuyant par des dégagements qui leur étaient inconnus, pour chercher un asile auprès d'un époux et d'un roi dont la vie n'était guère plus assurée, avait percé son lit de 100 coups de poignard. Que ce roi, pour ne rien dire de plus de lui, que cette reine, que leurs enfants, qui d'un seul coup pouvaient devenir la gloire et l'espérance d'un peuple nombreux et généreux, furent forcés d'abandonner le sanctuaire qui les retenait dans le palais du monde le plus splendide, et de fuir un séjour dégoûtant de sang, souillé de meurtre et jonché de membres de tous les corps qu'on avait mutilés. Que de là ils furent conduits dans la capitale de leur royaume, que dans le carnage confus et sans motif des gentilshommes qui comptaient la garde du roi, on en avait choisi deux pour être décapités au milieu de la cour de ce palais avec toute la pompe d'une exécution juridique, que leurs têtes portées sur des piques servirent de guide, qu'elles ouvrirent, qu'elles dirigèrent la marche, que le roi et sa famille la terminaient en captif, qu'on traînait lentement leur majesté au milieu des hurlements horribles, des cris perçants, des danses frénétiques, des propos infâmes et de toutes les horreurs inexprimables des furies de l'enfer sous la forme des femmes les plus viles. Qu'après avoir été forcés de goûter ainsi, goutte à goutte, une amertume plus cruelle que la mort, à endurer un semblable supplice pendant un trajet de 12 000 qui a duré plus de 6 heures, elles ont été confiées à la garde de ces mêmes soldats qui les avaient amenés au milieu d'un tel triomphe et confinés dans une des anciennes maisons royales de Paris que l'on a convertie aujourd'hui en Bastille pour les rois. Est-ce là un triomphe à consacrer sur les autels, à éterniser par de solennelles actions de grâce et que l'on doive offrir à la source divine de toute humanité par des prières ferventes et par des éjaculations enthousiastes? Ces orgies thébaines et thraciennes représentés en France et applaudis seulement au Old Jewry, ont allumé dans très peu d'esprits de ce royaume le feu de ce prophétique enthousiasme. Quoiqu'un saint apôtre, qui peut-être a des révélations pour lui seul, et qui a si longtemps surmonté toutes les vaines superstitions de la sensibilité, soit incliné à penser qu'il est pieux et convenable de les comparer avec cette entrée du prince de la paix dans le monde, proclamée dans le temple saint par un sage vénérable, et annoncé quelque temps auparavant, d'une manière encore plus majestueuse, à la paisible innocence des bergers par la voix des anges. Je ne savais d'abord comment expliquer ce transport immodéré. Je savais très bien que les souffrances d'un monarque sont pour quelques palais un mets délicieux. Il y avait cependant à faire dans cette occasion bien des réflexions qui auraient pu contenir cet appétit dans quelques termes de tempérance. Mais lorsque je pris en considération une circonstance particulière, je fus obligé de convenir qu'il fallait bien accorder beaucoup plus à la Revolution Society et que la tentative était trop au-dessus d'une discrétion ordinaire. Je veux dire la circonstance du péant du triomphe, de ces cris si perçants qui appelaient tous les évêques à la lanterne. Il n'en fallait pas davantage pour faire naître cet éclat d'enthousiasme par la perspective des conséquences d'un si beau jour. Je pardonne à un si grand enthousiasme quelques écarts de prudence. Je pardonne à ce prophète de s'échapper en action de grâce et en témoignage de joie à l'occasion d'un événement qui est comme le précurseur du millénium et de la 5e monarchie projeté pour la destruction de tous les établissements de l'Église. Il y avait cependant, comme il arrive dans toutes les affaires humaines, au milieu de cette joie, quelque chose qui pouvait exercer la patience de ces dignes messieurs et mettre à l'épreuve les longues attentes de leur foi. Le meurtre effectif du roi, de la reine et de leurs enfants manqua à toutes les autres circonstances heureuses de ce beau jour. Le meurtre des évêques, quoiqu'invoqué par tant de saintes éjaculations, y manqua de même. On avait tracé l'esquisse d'un beau groupe de carnage, régicide et sacrilège. Mais ce ne fut qu'une esquisse, Par malheur, elle n'a point été terminée, et ce grand morceau d'histoire manque au massacre des innocents. Quel sera le pinceau hardi d'un grand maître de l'école des droits de l'homme qui achèvera cet ouvrage? C'est ce qui se verra par la suite. Le siècle n'a pas encore reçu complètement le bienfait de cette expansion de connaissances qui a miné la superstition et l'erreur. Et le roi de France aurait pu avoir à oublier de plus un ou deux autres objets qui auraient mis le comble au bien que ses souffrances et que les crimes patriotiques d'un siècle éclairé procurent à son peuple.